Vous écoutez Sériland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec le comédien Melville Poupeau. Il est le héros d'une nouvelle série à voir absolument sur Canal+, OVNI. Je m'appelle Eva et je viens de passer un peu plus de 6 heures à découvrir la nouvelle série de Canal+, baptisée OVNI. 12 épisodes que j'ai dévorés. Oui, je sais, on dit binge-watcher, mais j'aime guère ces anglicismes qui sont difficiles à prononcer par ailleurs. OVNI, c'est une plongée à la fin des années 70 au cœur du GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, un organisme chargé de l'étude des OVNI. À sa tête, un scientifique brillant, entouré d'une équipe de pieds-nickelés. Leur mission, répondre à une question : sommes-nous seuls dans l'univers ? Vous n'aurez pas la réponse à la fin de la série et je ne vous spoil rien de cette comédie hilarante, poétique, rythmée par un brin de science-fiction. Une série portée par Melville Poupeau. Si je devais le définir en un mot, ce serait le verbe « jouer ». Jouer la comédie avec les plus grands réalisateurs de cinéma, de Raoul Ruiz à Xavier Dolan en passant par Arnaud Desplechin. Jouer de la musique avec son groupe, avec son frère Yarol ou Benjamin Biolay. Jouer avec les mots à travers ses livres, jouer avec les traits quand il se décide à dessiner. Dans OVNI, il se joue de nos croyances, de nos doutes, de nos certitudes, parfois idiotes. Il joue avec nos émotions et nos rires, et c'est très réussi. Avec lui, on a donc parlé d'extraterrestres, de boules à facettes et d'un flamant rose apprivoisé, mais aussi de foi et de science. Melville Poupeau nous a également raconté sa détestation des castings, sa joie de tourner dans une série, et revient sur ses souvenirs d'enfance surprenants.
Sériland, épisode 35.
Bonjour Melville Poupeau.
Bonjour et merci.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors préparez-vous parce que j'ai très envie de tout savoir sur cette nouvelle série de Canal+.
C'est jamais trop ce qu'il faut dire ou pas dire, si on spoil ou...
Alors pas de spoil dans Sériland, on va essayer de faire attention. Voilà.
Je sais.
Mais vous allez nous dévoiler un peu les coulisses de cette série intitulée OVNI. On est à la fin des années 70, hein, vous incarnez Didier Mathur, divorcé, père de deux enfants, brillant ingénieur en aérospatial, qui quand même vient de vivre son premier échec, puisque la fusée qu'il avait conçue a explosé en vol.
Absolument.
Ça, on peut le dire, parce que c'est au premier épisode.
Cristal.
La fusée cristal, exactement. Et on va le retrouver, Didier Mathur, est dans le bureau du directeur du CNES, Centre National d'Études Spatiales, qui lui parle d'un drôle de département.
Tu connais le GEPAN ? Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés ? Enfin, les ovnis, quoi. Le chef du département a donné sa démission la semaine dernière. Du coup, c'est moi qui me coltine l'intérim.
Mais il existe vraiment, ce bureau ? Je crois que c'était une blague.
Ah non, c'est pas une blague. Au début, c'était juste un petit bureau pour faire des stats, et puis ils ont eu la brillante idée d'acheter un téléphone, et maintenant ils croulent sous les appels. Là, il y a 15 piafs morts dans un champ, et il faudrait que je me tape 90 bornes pour l'expliquer que c'est pas la faute des martiens ?
Bah non, c'est pas ton travail.
Bah exactement. Le GEPAN.
Sauf que le GEPAN, c'est pour vous, Melville Poupeau, Didier Mathur en l'occurrence.
Ouais.
Et forcément, première question que je me suis posée, est-ce que ça existe vraiment, le GEPAN, dans la vraie vie ?
Eh bien, oui, absolument, ça existe et ça a été effectivement créé dans les années 70 pour répondre à tous les appels, la recrudescence d'appels qu'il y a eu dans cette période-là en France, de gens qui avaient assisté à des phénomènes surnaturels, des boules lumineuses dans le ciel, des triangles noirs qui survolaient leurs champs. Enfin voilà, il y a eu, comme à plusieurs périodes de l'histoire, des moments un peu où tout à coup, il y a eu des manifestations, alors on ne sait toujours pas expliquer. Mais en tout cas, ils se sont dit, au sein du CNES, qui est pourtant un organisme très très sérieux de l'aérospatiale française, ils se sont dit, voilà, il faut répondre à tous ces appels, il faut donner des réponses à ces gens-là, donc on va monter un bureau, donner un numéro de téléphone, et quiconque aura vu quelque chose d'inexpliqué dans le ciel, on arrivera à lui donner des réponses. Et c'est le début de la série. Et juste pour dire que mon partenaire en face dans cette scène-là, et dans beaucoup de scènes, qui fait le directeur du CNES, c'est Laurent Poitrenaud, qui est un grand acteur de théâtre, qui est exceptionnel, qui fait un numéro pas facile parce que c'est toujours lui qui donne les informations et qui doit être un peu le chef du département, les coups de gueule, les trucs, et il a fait un travail extraordinaire.
Alors, parmi les phénomènes un peu exceptionnels que vous venez de décrire, vous avez parlé d'un triangle noir qui est abordé, en fait, dans la série. En l'occurrence, c'est un des phénomènes qui est décrit par un des témoins. Mmh. Est-ce que ça veut dire que certains phénomènes qui rythment la série sont des phénomènes qui ont été décrits et qui étaient vraiment sur le bureau du GEPAN ?
Absolument. Et beaucoup de témoignages que les auteurs ont repris dans la série sont des témoignages qui ont vraiment eu lieu, dont il y a des archives. Alors, ils n'ont pas essayé de copier exactement le look des personnages et tout ça, mais enfin, pour quiconque connaît un petit peu l'ufologie et s'intéresse au sujet, en voyant la série, tu reconnais beaucoup de dossiers, beaucoup de moments de l'histoire. Évidemment, c'est pas pour se moquer des gens qui ont vu quoi que ce soit, mais c'est plus au contraire pour être fidèle et pour dire, voilà, c'est vrai, les gens, et c'est pas tous des illuminés, ils ont vu, au même moment, ils étaient 100, ils ont vu un truc bizarre dans le ciel, et personne n'a su leur expliquer ce qui s'était passé.
Ouais, c'est très important ce qu'on est de dire, il n'y a pas un brin de moquerie du premier épisode au 12e, et c'est très appréciable d'ailleurs. En tout cas, vous êtes au placard, hein, parce que vous allez devoir gérer ce GEPAN avec les dossiers, avec les gens qui les ont observés, et puis une drôle d'équipe quand même, composée de pieds nickelés, Marcel, Vera et Rémi, qui sont incarnés avec brio respectivement par Michel Villermoz, Daphné Patakia et Quentin Dolmer. Géraldine Payas et Nicole Garcia complètent le casting. On va évoquer quelques-unes des aventures, hein, qui rythment ces 12 épisodes, mais auparavant, Melville Poupeau, est-ce que vous pouvez me raconter le jour où vous avez reçu le scénario signé Clémence Dargent et Martin Douer? Est-ce que vous en souvenez?
Bah oui, je m'en souviens. En fait, c'est mon agent qui m'en a parlé en premier, en me disant voilà, Canal Plus prépare une série qui a l'air intéressante, puis en plus c'est réalisé par Anthony Cordier, qui est un metteur en scène de films d'auteur, enfin très qui a son style, vraiment sa patte. Mais est-ce que tu as envie, Melville, de retourner une série directe, parce que je venais de faire à l'époque une mini-série Insoupçonnable pour TF1. Et je dis bah oui, au contraire, parce que j'ai tellement pris mon pied sur Insoupçonnable, d'avoir un personnage qu'on peut développer pendant tant d'épisodes, avec tellement de facettes, tellement de scènes différentes, que j'attendais au contraire, puisque c'était une mini-série, d'avoir un autre personnage qui me donnerait autant envie de le développer sur une aussi longue période. Et là, dès les premières pages d'OVNI, je me dis bon, voilà, ce Didier Mathur, il est pour moi, il a tout ce que j'aime. Il passe d'un état à l'autre en une seconde, il a un brin de folie. Moi, j'aime bien les personnages qui pètent un peu les plombs. Donc
ah
là,
bon ouais. Dans votre filmographie, il y en a quelques-uns.
Ouais, donc ça me plaisait beaucoup. Je me disais qu'il y avait à la fois les années 70, donc un jeu sur les costumes, sur le look que j'avais pas encore exploré, le fait d'avoir une grosse moustache, des cols pelle à tarte, des frocs un peu moulants aux fesses et puis large en bas. Enfin, il y avait tout un truc. Et je me suis dit, voilà, je vais m'éclater, je vais m'amuser, c'est un personnage en or. Et je suis prêt même à signer si jamais il y a une deuxième, troisième, quatrième saison, en sentant que j'allais pas me lasser de ce Didier Mathur.
Et alors d'ailleurs, on va commencer par la fin, est-ce qu'il y aura une saison 2 de OVNI ?
Oui, alors je peux le dire parce que ça a été annoncé par le patron de la fiction de Canal. Ils ont rempilé directement avant même que ce soit diffusé parce qu'ils ont été eux-mêmes très fans de la série et tout le monde a en fait envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, que va devenir Didier Mathur et puis les autres du GEPAN. Donc il y a une vraie excitation de la part de tout le monde et même des auteurs de se dire bon maintenant c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on les amène ces personnages ? Je crois qu'en fait les auteurs, à la vision des rushs et du résultat final, se sont rendus compte eux-mêmes à quel point ils tenaient quelque chose de précieux entre les mains avec ce sujet et ces personnages.
OVNI a une qualité rare en France, c'est celle de mélanger de la comédie à un brin de science-fiction, et puis avec une grande dose de poésie, en tout cas, à mon sens. J'ai même pensé parfois à Boris Vian, sur certains aspects. Il y a des phénomènes paranormaux évoqués qui sont pas que des soucoupes volantes. Et on a, par exemple, l'apparition d'une mare de chaussures, un bureau d'où s'échappe de l'eau, on sait pas pourquoi ni comment, un champ de maïs qui est transformé en champ de pop-corn, voilà, ça a été mon...
Voilà.
Et la fameuse pluie de flamants roses. Et puis, il y a aussi une autre scène, Melville Poupeau, une énorme boule lumineuse que vous allez trouver en plein milieu d'une forêt.
C'est une boule à facettes.
Quoi ?
Ces machins qu'on accroche au plafond dans les dancings.
Je viens d'avoir de centrale. Un camion a eu un accrochage. Il transportait le décor pour un concert de Jean-Michel Jarre et... Et il a perdu ça.
Scène complètement burlesque. Vous qui aimez Chaplin, je crois, je pense que vous êtes servi et qui a nécessité la construction d'une immense boule à facettes, ou c'est vraiment Jean-Michel Jarre qui vous a fait un prêt?
En tout cas, cette anecdote est véridique. Des gens ont vu passer à fond de train une boule à facettes géante dans la forêt, éclairée de mille feux et qui avait l'air d'un objet céleste. Et en fait, c'est juste un décor de Jean-Michel Jarre qui s'est décroché d'un camion.
Voilà, et donc,
c'est une histoire vraie.
Une boule à facettes qui est énorme, hein, elle fait à peu près 3 mètres de diamètre dans la série, ouais. Et ça donne une scène hyper croustillante. Est-ce que vous n'avez pas eu peur parfois en lisant le scénario, en découvrant des scènes comme ça? Vous vous dites, mais ils sont complètement fous, ça ne va pas marcher à l'écran.
Moi, ça ne me dérange pas du tout que les gens soient fous et d'aller le plus loin possible. C'était au contraire ce que je trouvais le potentiel qu'il y avait dans ce texte et qu'on a essayé d'exploiter au maximum avec Anthony Cordier, le réalisateur. C'est de pousser les personnages un petit peu plus loin que d'habitude, disons, de ne pas avoir peur d'aller dans le burlesque. Des fois, on tournait des scènes, on pensait à Pierre Richard, même à Louis de Funès. Et ce que je trouve qui est réussi dans la série, c'est qu'à la fois, on est dans cet hommage un peu à la comédie burlesque, un peu 70s, qui n'a pas peur d'aller un petit peu loin, qui n'a pas peur du ridicule. Et en même temps, on arrive à suivre l'histoire et l'intrigue sans que disons, un niveau comédie et le niveau intrigue se télescopent. Donc je pense qu'ils ont bien réussi cet équilibre entre les deux tendances, qui n'est pas facile.
Oui, ça donne beaucoup de rythme en fait. Les séquences sont très rythmées du début jusqu'à la fin. Vous disiez avoir accepté le scénario tout de suite. Enfin, en tout cas, vous avez été emballé par ce scénario. Est-ce que vous êtes passé par la douloureuse épreuve du casting? Parce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça.
Non, heureusement que non. De moins en moins, je fais des castings parce que j'ai bientôt 50 ans. J'ai fait beaucoup de films. J'ai commencé quand j'étais petit, donc... J'ai la chance d'échapper au casting de plus en plus, et je compatis pour mes petits camarades qui, eux, en passent, parce que je sais que c'est une épreuve terrible. Et en l'occurrence, c'est Anthony Cordier, le réalisateur qui a fait tous les épisodes de la série, qui lui a fait un énorme travail pour cette série. Parce que ce qui est intéressant quand on fait une série, c'est qu'il y a un côté travail d'équipe. On a tous le même script, c'est pas le metteur en scène, les auteurs sont pas forcément sur le plateau, mais toute l'équipe se met au service de ce texte. Et par contre, un choix d'acteur peut complètement transformer en personnage. Là, le fait que ce soit Michel Villermoz qui fasse Marcel, voilà, ouais. c'est tout à coup, c'est comme si Michel Villermoz créait le personnage et qu'Anthony, en choisissant Michel, recrée un peu le personnage écrit par les auteurs. Donc c'est ça qui est très fort, je trouve, et très réussi aussi dans la série, c'est les partis pris esthétiques qu'Anthony a su donner à ce texte.
Vous parlez de Michel Villermoz, vous avez plusieurs scènes où vous êtes que tous les deux, en face à face, hyper drôle. Est-ce que vous vous êtes amusé à tourner cette série autant que nous, on a de plaisir à la regarder?
En tout cas, on s'est éclaté, ouais. On s'est éclaté dès le premier jour. Les séquences, les dialogues hyper bien écrits, puis le fait aussi que on puisse passer d'un registre à l'autre comme ça, d'une scène à l'autre, et puis même au sein même d'une scène, moi ce que j'aime beaucoup chez mon personnage Didier Mathure, c'est que il peut arriver débouler dans la scène très sûr de lui, cravaté, le professeur émérite cartésien très très sérieux, et tout à coup se fissurer et redevenir comme une espèce de môme paumé, complètement ahuri, abruti, et c'est, ça c'était très drôle à jouer. Et j'avoue qu'entre les quatre personnages du Gépan, il y avait une circulation de jeu et un plaisir de se renvoyer la balle qui a créé une vraie équipe, quoi. Je pense que c'est ce qu'on voit aussi dans la série, c'est que dans ce bureau-là, on se dit, on a à d'y être, de retrouver ces personnages-là, parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui se passe de charme, de complicité, qui est pas feinte, qu'on a eu en juin.
Je vous soupçonne d'avoir eu quelques fous rires avec Michel Villermoz notamment. Est-ce que je me trompe
Absolument.
Ou pas?
Bon, pas seulement lui, je pense que toute l'équipe des fois a été un peu pliée. Après, c'est des séries où on travaille beaucoup, il y a beaucoup de scènes par jour, c'est quand même des gros emplois du temps, donc on était aussi beaucoup dans le travail et tout ça, mais il y a des moments qui sont irrésistibles. Puis Michel, de toute façon, dans ce rôle-là, il est totalement irrésistible.
Puis on sent que c'est très bien écrit, c'est au cordeau. Donc je comprends quand vous dites qu'il y a beaucoup de travail aussi à le filmer, à le tourner, cette série. Comment on pourrait qualifier l'humour d'OVNI? Parce que alors, c'est un exercice un peu compliqué, mais si je dis qu'on n'est pas loin d'une autre série au service de la France qui avait été diffusée sur Arte et OSS 117, est-ce que vous êtes d'accord? Je sais que je prends un risque parce que vous ne regardez pas forcément beaucoup de séries.
Non, alors je ne sais pas.
Donc je sais pas si c'est une référence.
Je ne connais pas. OSS 117, oui, bien sûr, c'est devenu une grande référence de la comédie en France, c'est une des meilleures, et puis moi je suis grand fan de Dujardin, que je connais un peu et que j'aime beaucoup, et qui est un homme formidable, donc ça me fait plaisir quand ça fait penser à la qualité du jeu de Dujardin en comédie, surtout.
Eh bien, tout est extrêmement bien écrit, tout est extrêmement bien joué, même quand il s'agit de décrire ce qu'est le congrès d'ufologie.
Dimanche, c'est la grande messe annuelle de l'ufologie privée.
Des bases nazies sur la planète Mars. Comment la CIA a inventé les dinosaures pour vous décourager de voyager dans le temps?
Chacun vient défendre sa petite chapelle, mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord.
Le GEPAN, c'est la bête à abattre.
On travaille pour l'État. Alors forcément, on cache la vérité, comme les Américains avec la zone 51. Or qu'il ferait mieux de s'occuper des vrais complots. Kennedy, la mort d'Elvis, la margarine.
La margarine, je ne sais pas pourquoi la margarine est arrivée.
Voir, c'est très documenté, hein. Il y a peut-être un complot autour de la margarine.
C'est ce que je me suis dit, voilà, mais je ne sais
qui
pas quel est
la margarine aujourd'hui.
Ben, les personnes âgées, non, peut-être.
Et ben voilà, c'est pour ça qu'ils sont âgés, ça se
c'est
trouve.
C'est pour ça, voilà.
C'est une explication.
Ça
fait âger les personnes.
On vient de parler de l'humour, mais la série, elle a une intelligence supplémentaire, à mon sens, c'est celle de parler de nous, de notre société, entre croyances et sciences, et l'époque que nous vivons en ce moment est quand même totalement raccord avec ce que vous racontez dans OVNI. Vous incarnez un scientifique qui rapidement va être bousculé par le doute, à la fois dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle.
J'ai pas dormi de la nuit. Et vous m'avez promis une explication.
Oui, je sais.
Alors c'est quoi?
Écoutez, je croyais qu'un peu de mystère, c'était sympa.
Mais non, c'est pas sympa. Et là, c'est pas un peu de mystère, c'est trop de mystère.
Il doit y avoir une explication rationnelle.
Monsieur Mathurin. Job Soot, elle était là. Et puis d'un coup, elle n'était plus là. Donc il n'y a rien de rationnel, il y a autre chose.
Mais non, c'est juste qu'on n'a pas encore compris. Et puis il faut dire aussi qu'à force de baigner dans cette espèce d'atmosphère, là, on finit par penser des choses
D'accord. Alors comment elle est sortie de sa cage ?
Petite précision, Melville Poupeau, qui est sorti de la cage, ou en tout cas, qui a disparu de la cage ?
Hatshepsut.
Hatshepsut, c'est qui
Hatshepsut, c'est le nom de ce flamant rose que Vera, donc joué par Daphné Patakia, a pris sous son aile, si je puis dire, et elle l'aime beaucoup, et tout à coup, ce flamant rose disparaît, sans explication. Et pourtant, je suis un peu témoin de la scène, disons, je suis dans les parages, et moi-même, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça à cette jeune fille qui s'inquiète pour son flamant rose. Et on a tourné donc avec un vrai flamant rose. Au début, il était question de faire un robot ou des images de synthèse. Et puis, un dresseur, fantastique d'ailleurs, a dit non, non, c'est possible. Donc, il a travaillé avec Hatshepsut, donc le flamant rose. Et c'était très mignon à voir parce qu'à la fin du tournage, il était très triste de se séparer de son flamant rose. Il l'avait vraiment adopté comme un animal qui se baladait au milieu de nous sur le plateau, qui était devenu un peu domestiqué, quoi.
Mais alors, qui a trouvé le nom du flamant rose que je n'arrive absolument pas à
alors,
prononcer?
Alors, c'est une reine égyptienne. Ça, c'est les auteurs qui ont placé plein de petites références et de trucs un petit peu codés. Je la connais pas, cette Hatshepsut. Moi-même, j'ai eu du mal à apprendre le mot par cœur. Parce qu'en fait, ce qui était amusant dans ce tournage, et ce que je me suis dit dès le départ, c'était que le rythme devait être très soutenu dans les dialogues, dans les échanges et tout ça. Donc on s'est un petit peu inspiré. Moi, j'ai regardé pas mal de films de Howard Hawks, des vieux films de comédie hollywoodienne, où le débit est extraordinairement rapide, que ce soit Cary Grant. Et pareil, chez Mastroianni ou chez De Funès, il y a une espèce de rapidité, ce qui n'est pas forcément dans ce qu'on a entendu, mais je veux dire, de tenir un rythme, ce qui fait qu'il y a des fois des références qui passent un peu à la trappe, mais si on regarde deux fois, trois fois, on se dit « Ah oui, en fait, c'est ça !» Et ça enrichit encore plus la vision.
Je vous confirme. Et voilà. Ces références-là, elles sont aussi dans les décors, on va en parler, ouais. Et dans toute l'atmosphère Absolument. Qu'il y a autour de vous, autour des personnages. J'aimerais revenir sur cette notion de croyance qui est vraiment au cœur de la fiction et de science. À l'occasion de la sortie du film de François Ozon, dans lequel vous jouiez, Grâce à Dieu, mm-hmm. vous aviez évoqué votre croyance et votre foi. Est-ce que mm-hmm. la série OVNI, elle vous a fait réfléchir autrement sur ces thèmes-là ? Est-ce que ça vous a peut-être même bousculé dans certaines de vos convictions ?
Un peu, parce que j'avoue que moi, j'avais jamais été sensible au sujet extraterrestre, au sujet OVNI. Et sur le décor, il y avait beaucoup, beaucoup de documents véridiques, des vieilles gravures du Moyen-Âge qui ont déjà figuré des personnages dans des bulles dans le ciel, de tous les phénomènes dont on parle un peu dans la série. Ils avaient déjà été mentionnés il y a bien longtemps. Donc c'est pas un truc qui arrive avec les années 40 et 50, même si le terme soucoupe volante vient d'une apparition
oui,
en 47, je crois. Donc il y a toute une histoire, et ce qui est amusant et ce que j'ai découvert par exemple, c'est qu'il y a des périodes où il y a une recrudescence d'apparitions. Par exemple en ce moment, en 2020, il y en a plein. C'est bizarre parce qu'il n'y en a pas eu depuis les années 90. J'en parlais avec un des auteurs il n'y a pas longtemps. Il nous disait on n'y pensait pas quand on a commencé à écrire la série que ça allait revenir à la mode. Mais là, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plein de documentaires sur Netflix et je ne sais pas où, sur les extraterrestres, parce que c'est redevenu un sujet important.
Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'on est dans une période où, justement, les notions de croyance et de science se mêlent étroitement ?
Voilà, ça. Et puis aussi, peut-être parce que les gens regardent le ciel en se disant « pourvu que quelqu'un vienne nous aider
». On en a marre.
Mais la question, c'est presque pas de savoir s'il y a une vie extraterrestre, c'est plutôt de savoir s'il y a encore une vie terrestre.
Ouais.
Parce qu'il se passe effectivement tellement de choses et tout le monde est un petit peu dans un état bizarre et second, sans tomber dans le délire. Mais c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, ce serait pas mal qu'il y ait quelque chose en plus que nous, parce qu'on n'arrive plus trop à gérer la situation. Alors, les extraterrestres, pourquoi pas ? Dieu, pourquoi pas, chacun y trouve son explication.
Ah ben alors justement, vous allez avoir une explication avec Rémi, qui est le jeune informaticien du GEPAN.
Bon, Rémi, allumez cet ordinateur, c'est un ordre. Si vous refusez d'obtempérer, il y aura des conséquences.
Vous ne pouvez pas me virer, je suis même pas employé, je suis bénévole.
Eh ben, vous serez même plus bénévole.
Très bien, sachez que je suis le seul à savoir utiliser l'ordinateur.
Bon, qu'est-ce que vous voulez ?
Vous entendre dire que l'hypothèse extraterrestre est une hypothèse qui a toute sa place au GEPAN.
Mais Rémi, la méthode scientifique, c'est de partir des faits pour arriver à des hypothèses, pas l'inverse.
En fait, ce qui vous énerve, c'est que quelqu'un puisse réussir à traverser le cosmos, alors que vous, vos fusées, elles décollent même pas, enfin, à peine.
D'accord. L'hypothèse
extraterrestre.
Extraterrestre a toute sa place au GEPAN, parmi plein d'autres. Quentin.
Vous êtes vachement facile à convaincre, en fait. J'ai préparé tout un tas d'arguments.
Oh, Rémi, l'ordinateur.
Est-ce que vous y croyez, vous, à une vie extraterrestre, ou en tout cas, une forme de vie ailleurs ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, même les scientifiques, dont c'est la spécialité, auraient plus de mal à penser, ont plus de mal à penser
le
qu'on serait les seuls dans
oui.
l'univers, plutôt que s'imaginer une autre forme de vie. Alors, comme l'explique très bien Rémi Bideau, joué par l'extraordinaire Quentin Dolmer, il y a plein de théories, évidemment. Alors, il y en a qui Et une époque, notamment dans les années 70, on imaginait volontiers des soucoupes volantes encore avec des petits bonshommes verts dedans, des pistolets laser qui, dans une forme un peu humanoïde. Aujourd'hui, il y a plus vraisemblablement des cellules qui existent, de l'eau qui existe sur tel satellite de telle étoile. Donc voilà, la vie, le fait même extraterrestre, enfin les extraterrestres même, si je puis dire, ont un peu évolué. Et sont plus forcément ces petits hommes verts comme dans la soupe aux choux, par exemple.
Mais on est bien d'accord, même si, même si on sent... vous le faites très bien, vous auriez pu jouer. Vous êtes entraîné. Non, mais on sent même quand même une... cet héritage de la soupe aux choux. Ce que je veux dire,
moi,
c'est que voilà, c'est que vous parliez de Louis de Funès tout à l'heure. Effectivement, il y a certaines scènes qui vous font penser à Louis de Funès. Enfin, quand vous avez vécu ces années-là, je peux le dire parce qu'on est à peu près de la même année.
Ouais,
pour revenir sur ces idées de croyance et de science, comment vous avez vécu ces derniers mois ? Je ne veux pas parler du confinement en tant que tel, mais justement de cette frontière floue qu'on sent entre science et croyance et qui alimente les débats.
Là, je suis venu en taxi, j'entendais un acteur qui ouvrait sa gueule et je me disais, c'est pas obligé qu'il ouvre sa gueule et j'ai pas forcément moins un point de vue intéressant sur la situation. Donc, je sais pas trop, science et croyance.
Mais est-ce que le fait de tourner OVNI, alors je sais pas à quelle période vous avez tourné, vous avez tourné il y a un an, j'imagine,
oui,
à peu près.
C'était avant toutes ces histoires.
C'était avant toutes ces histoires. Et, mais, et quand vous vous dites, on a tourné un truc quand même qui était très d'actu, vous vous posez cette question ? Vous voyez ce que je veux dire ?
D'actu plus parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont en train de se dire mais oui les extraterrestres c'est sûr, ouais. Ça existe, ils sont là, ils vont venir, il y a un Israélien qui était en chef de l'aérospatiale en Israël qui à 89 ans fait son coming out en disant nous sommes en contact, les États sont en contact avec des extraterrestres, voilà, moi ce que je sais c'est que depuis que, non pas forcément après le tournage mais depuis que j'ai vu la série, quand je lève les yeux au ciel et que je regarde les étoiles et le ciel, je me dis c'est pas possible, faut être fou pour penser qu'il y a personne. Ça a fait un revirement un petit peu.
Oui.
Tu regardes ça, tu dis, bah oui, il y a bien quelqu'un qui les a mis là, ces trucs-là, et puis il y a quelqu'un dedans. Et je veux dire, on n'est pas seul comme un espèce de miracle infini à penser qu'on est les rois du cosmos, parce que sur notre petite terre qu'on est en train de malmener, on serait vivant et le reste, non. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose.
On écoute un autre extrait qui montre l'évolution de votre personnage. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet extrait. Vous êtes devant toutes les instances européennes de l'aérospatiale et devant votre ex-femme, scientifique également. Alors, on n'est pas du tout dans le registre de la comédie, mais c'est extrêmement intéressant.
Et croyez-moi, quand Crystal a explosé, j'avais qu'une seule obsession, c'était de comprendre ce qui s'était passé. Comprendre pourquoi je venais de perdre 10 ans de ma vie, sans parler du reste. Mais bon, la science ne peut pas toujours donner des réponses immédiates. Mais il faut savoir faire acte d'humilité.
Hey. On a compris ton nouveau credo, Didier. Tout est possible.
Excuse-moi, mais dire tout est possible, ça n'a jamais fait de mal à la science. Au contraire, c'est dire c'est impossible qui fait du mal. Parce que c'est la voie de la peur de l'échec, la peur de l'erreur, de l'inconnu. Et à force d'avoir peur de tout, bah, on s'autorise plus rien.
Non, mais pardon, ça m'a échappé, mais c'est juste que c'est moi qui lui disais toujours ça.
Mais arrête, c'est pas vrai, j'ai toujours pensé ça.
Si à chaque fois que tu m'avais dit c'est impossible, j'avais eu un franc... Je serai aujourd'hui à la tête de ma propre agence spatiale.
Alors, j'ai pris cet extrait d'abord parce que je le trouve intéressant sur le fond. Mmh. Et sur la forme, vous avez quand même un monologue qui est assez long. Et vous en avez plusieurs dans la série, notamment avec des monologues avec des termes scientifiques.
Ouais, des explications.
Comment vous avez tourné ça ? Est-ce que c'était une galère ou pas ?
Non, c'était pas une galère parce que je m'y suis pris très à l'avance pour apprendre mon texte. Moi, je suis très professionnel, disons. Je suis très... très sérieux, et je sais que quand je joue un personnage, a fortiori un scientifique qui de temps en temps s'éclate à donner des explications rationnelles et scientifiques avec des termes un peu compliqués, mais lui ça l'excite, et puis on imaginait aussi peut-être que les gens qui regardent la série, même peut-être les enfants, tout à coup se passionneraient pour des sujets qui sont pas évidents, quoi. Donc je me suis dit, ok, moi c'est simple, il faut que je connaisse mon texte par cœur pour que ça sorte comme ça et que je puisse jouer et m'amuser sans être en train de réfléchir aux mots. Donc voilà, c'est tout, j'ai travaillé et puis j'ai pris du plaisir à le faire. Et j'ai été dirigé extrêmement bien par Anthony Cordier. Comme tous les acteurs dans la série, je pense qu'ils sont tous contents du travail qu'ils ont eu avec Anthony. Donc voilà, c'était un des paramètres. Mais c'est vrai que dans ce genre de cas, il faut s'y prendre bien à l'avance.
Cette scène dont on vient d'entendre un extrait se déroule dans un bâtiment qui est très années 70, qui est assez incroyable. Mmh. Et il faut dire un mot sur les décors. Mmh. Chaque scène est un tableau. Il y a un souci du détail. Par exemple, votre bureau au GEPAN, C'est incroyable. J'ai fait des arrêts sur image pour regarder vraiment tout ce qu'il y avait derrière. On voit beaucoup de, alors des dossiers, mais ouais. Des flacons. Et on sent que même les lettres qui sont marquées sur le flacon ont été pensées. Tout ouais, a été réfléchi. On est un peu dans un milieu assez BD.
Ouais.
J'ai pensé à Scooby-Doo, à Gaston Lagaffe, à Tintin aussi. Ouais. Quel a été l'apport du décor dans votre jeu d'acteur ?
Énorme, comme les costumes. Les costumes, peut-être encore plus dans mon cas.
Vous le portez mais... bien, le costume.
Ah, merci beaucoup. C'est mais vrai. C'était un gros travail de la part de Pierre Canitro, le chef costumier, et de l'équipe de décor, et d'Anthony, qui a un peu supervisé l'esthétique de la série. Parce qu'effectivement, sur le tournage, moi, au bout d'un moment, j'étais comme chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai connu les années 70, je sais ce que c'est qu'une machine à écrire, un téléx, un cadran de téléphone. Donc, au bout d'un moment, j'oubliais un peu le décorum. Alors que les deux autres acteurs qui étaient d'une génération...
beaucoup
plus jeunes, eux, ils continuaient à halluciner sur « Putain, mais vous étiez vraiment en train de faire des numéros ?» Parce qu'un cadran de téléphone, je ne sais pas si vous en souvenez, mais
ah bah oui.
pour appeler, ça met du temps. Il y a quand même, il y avait 8-10 chiffres à faire tourner sur un cadran. Donc c'était un peu compliqué. Et moi, ça me paraissait naturel, mais pour eux, non. Donc c'est vrai qu'au travers de la série, et pareil, les costumes, quand j'ai fait mon... Moi, au début, je me disais « Bon, Didier Mathur, je le voyais comme ci, comme ça. » Et quand j'ai essayé les costumes, je me suis dit « Ah non, en fait, c'est... Ça peut être très vite ridicule, hein, un costume des années 70. Grosse moustache, cravate en maille, et puis pour les autres aussi. Mais ce que a fait Anthony Cordier, le réalisateur, c'est qu'il n'a pas voulu exagérer et surjouer les 70s pour pas caricaturer, et surtout pour pas qu'on soit perturbé par trop de violet, trop d'orange et trop de vert mélangé. Que ça file pas la gerbe, mais qu'on puisse quand même suivre l'histoire et s'attacher au personnage sans être en permanence ébloui par la reconstitution des 70s.
Eh bien justement, c'est très très réussi, parce que justement, merci. On a vraiment l'impression d'être plongé dans ces années-là, que j'ai connues en l'occurrence. Ouais. Vous, quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Vous avez grandi aussi dans les années 70 ?
Oui, absolument.
Bah, en fait... Je suis désolé, pardon.
Non, mais j'en suis fier. Je suis né sous...
sous Giscard.
Sous Giscard.
Eh oui.
Feu Giscard, qui a un petit rôle dans la série d'ailleurs.
On l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup.
Ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on regarde la série, mais on en apprend plus sur notre époque actuelle que sur les années 70 quasiment. Enfin, disons, le regard sur les années 70 nous permet d'avoir un regard sur notre époque. Et on se dit, waouh, ça a vraiment changé. Ou ça a déconné, quoi. Parce que, alors, c'est une comédie et tout ça, mais... On se dit, dans ces années-là, il y avait quand même plus de douceur, plus d'empathie, plus de générosité, moins d'agression et moins de violence. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que la série donne comme image des années 70. Et comparativement, on se dit aujourd'hui, putain, bon, a fortiori dans cette période ignoble, mais a fortiori, on se dit, il y a quand même un truc à déraper, quoi. Il y a un esprit de cynisme et de méchanceté et d'intolérance finalement qui s'est installée. Et alors moi j'essaie d'analyser ça, je sais pas si c'est les années 80, si c'est sous Mitterrand, si c'est je sais pas qui, je sais pas quoi, il y a peut-être pas de responsable, c'est peut-être juste la nature qui fait ça. Mais ça fait du bien de se retrouver dans cette époque-là où un mec vous dit qu'il avait une grosse boule blanche dans son champ, bah ok, bah il peut être sympa, et puis finalement on peut en rigoler, et puis c'est pas grave, et puis on passe à autre chose, et voilà. Il n'y a pas le côté bashing et je sais pas tous ces termes de gens aujourd'hui avec ce téléphone dans la main qui...
Mais je pense que c'est pour ça aussi que, que OVNI est une sorte de bulle d'oxygène et fait plaisir à voir. C'est parce qu'on est dans une forme de bienveillance du début jusqu'à la fin. Et
j'espère.
Que même dans les rapports qui peuvent être un peu plus conflictuels, je pense au rapport que vous avez avec le personnage de Nicole Garcia qui représente, qui symbolise le complexe militaro-industriel, je vais y arriver. Finalement, il y a aussi beaucoup de douceur et tout est atténué jusqu'à la fin.
Bah, ouais, ça tient aussi à Anthony Cordier, le ton qu'il a même dans ses films précédents, d'une tendresse pour ses personnages. Quoi.
Alors, en parlant d'enfance, justement, il fallait absolument qu'on écoute un extrait de Didier Mathur en présence de ses enfants, dans la série, évidemment.
Dis, papa, est-ce que tu vas devoir couper la fusée ?
C'est vrai, ça, papa ? Ouais, maintenant que t'as cramé le PIB du ZR en 12 secondes, tu comptes attaquer à quoi ?
Eh bien, avec votre mère, on réfléchit à un nouveau projet.
Vous êtes pas censé être divorcé ?
Dans la classe, il n'y a qu'un seul divorcé, et c'est moi.
Bastien, déjà, tu n'es pas divorcé, c'est ta mère et moi. Et ensuite, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble.
On l'aima, Pompidou ! Vous êtes en état d'arrestation !
Pourquoi il arrête pas de répéter Pompidou, celui-là ?
C'est son zizi, il l'appelle comme ça, maintenant.
Mais Bastien, ça va pas, on n'appelle pas son zizi Pompidou ! On appelle son zizi rien du tout !
J'adore ce passage, parce qu'on est... à la fois dans un côté qui est très émouvant de vous voir avec vos enfants, de voir votre personnage avec les enfants, le côté comique qui est incarné par ce petit garçon, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça raconte aussi notre société, et quand on parle du PIB du Zaïre, quand on parle du rapport avec le père, etc.,
on est vraiment dans une chronique de la société, en fait, à travers un dialogue qui est très court. Hein. On
tout
en a entendu
en
quelques secondes.
Devant la télé, exactement. Un mauvais plateau de l'époque, avec un plat que le pauvre Didier Mathur a fait comme il a pu. Oui, c'est des moments que moi j'ai vécu, enfant. Je regardais la télé pendant qu'on mangeait, c'était pas grave. Et on regardait les informations tous ensemble, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Aujourd'hui, chacun a son petit tweet. Enfin, je veux pas cracher dans la société dans laquelle on vit, parce que j'aurais plus envie d'y vivre. Mais alors que je l'aime, et je pense que le mieux est à venir. Mais c'est vrai que ça fait... Voilà, ça rappelle des moments. Et puis pour ceux qui n'ont pas vécu ça, ils peuvent se dire, tiens, c'était peut-être sympa quand même de passer un moment tous ensemble à regarder des infos et à en discuter, par exemple.
Oui, et puis on sent que vous avez envie de parler aussi à travers ce genre de scène, de transmission, d'héritage. Mmh. Je me suis demandé, vous êtes père dans la vie. Mmh. Est-ce que vous avez un souci aussi, par exemple, de transmettre votre connaissance du cinéma et des arts en général ?
Oui, j'ai fait un peu gaffe. Et ma mère, la grand-mère de ma fille, et la mère de ma fille est très cinéphile aussi. Et on a toujours... c'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par une mère très cinéphile qui m'a fait comprendre qu'au travers du cinéma, des messages et l'éducation pouvaient arriver, se réaliser. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai montré des films à ma fille sans lui dire « Tu vas voir ça, regarde bien, hein, mais juste un peu scred pour qu'elle le regarde et qu'après, ça fasse son chemin et qu'elle reconnecte tel auteur avec tel autre auteur et tel acteur avec tel autre acteur. Comme ça, dans une discussion, éventuellement, ça peut devenir une référence. Ou alors, ça fait son chemin. Je sais qu'il y a certains films qui l'ont marqué ou d'un point de vue esthétique, ou d'un point de vue de l'histoire et du changement de la société, tout ça, c'est important. Les films sont des véhicules d'éducation aussi.
Et les séries ? Vous qui ne regardez pas tant que ça, mais quand même. Est-ce que c'est pas votre fille aujourd'hui qui vous fait regarder des séries ?
Si, absolument. Ouais. Absolument. Elle me fait regarder plein de choses, elle me fait écouter plein de choses. Mais c'est un travail aussi qui se... La transmission, ça va dans un sens peut-être au début, mais après, c'est aussi... moi, j'ai transmis pas mal de choses à ma mère, et puis ma fille me transmet des choses. Voilà, ça circule. Dans une famille qui fonctionne à peu près, l'information circule bien.
En parlant de transmission, dans la série, vous évoquez le disque d'or de Voyageur. C'est une sorte de bouteille de mer interstellaire. Hein. C'est un disque qui a été envoyé dans l'espace en 77, à destination d'éventuels extraterrestres, et sur lequel on va trouver un catalogue de sons qui symbolise notre Terre, mais il y a aussi de la musique. Hein. Ça va de Bach à Chuck Berry, en passant par un chant d'initiation de filles pygmées. J'ai quand même vérifié cette information. Avec Christophe Pierrot, le réalisateur de Sériland, on a imaginé le disque d'or de la série d'OVNI. Ah, en fait, on a pris quelques sons qui illustrent la série et que je mettrai dans une valise qui, à mon sens, c'est quand même l'objet qui vous définit le mieux. Laissez-moi danser, laissez-moi
danser, chanter en liberté tout l'été. Au-dessus de l'aéroport international de Turin, il y a un ovni qui a été vu pendant plusieurs dizaines de minutes par beaucoup de témoins, par des milliers de témoins au sol, vu par trois équipages d'avions, et il y a même un troisième équipage d'avions qui a foncé sur l'OVNI pour voir de plus près ce que c'était, cette espèce de masse blanche qui ne bougeait pas malgré le vent en altitude, et là l'OVNI est parti à toute vitesse.
Pour la majorité électorale, je suis entièrement d'accord, parce que les jeunes tiennent une place de plus en plus importante dans le pays.
D'entendre ma ville Poupeau.
Tout un peu un panégyrique des références un peu et des sujets qu'aborde la série, c'était très bien fait. Ouais.
Alors on a entendu Dalida, parce que vous l'entendrez dans OVNI et parce que c'était la musique qu'on écoutait à ce moment-là. On a entendu Jean-Claude Bourré, qui était une star de la télévision à ce moment-là.
Qui est devenue une star de l'ufologie, qui a écrit beaucoup de livres qui nous ont servi en point de vue de la documentation sur ce sujet-là.
Oui. Et qui continue à faire des conférences sur le sujet. On a également entendu évidemment le générique.
Et en plus, il citait un Turin, effectivement, cette apparition qui est un peu un gros problème pour la science, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'était que ce machin.
Et puis, on a entendu aussi un clin d'œil aux envahisseurs, qui est un clin d'œil dès le premier épisode de la première saison. Un jeune homme qui parle de la majorité à 18 ans, parce qu'on est effectivement dans les années Giscard et qu'il est question de ça avec votre fille dans la série. Il était une fois l'espace. C'était la série qu'on regardait quand on était enfant. Et puis, E.T. Et si on a fait ça... D'abord parce que c'était en référence effectivement à ce disque d'or de Voyageurs, mais aussi parce que la série elle est bourrée de références, vous le disiez tout à l'heure, et notamment, il y a un épisode qui est consacré quasiment entièrement à Spielberg.
Papa, maman, où ?
Je sais pas moi, il faut téléphoner à ma maison. téléphoner à ma maison. Téléphone, maison. Oh, mais tu comprends rien, toi.
Oh, ok, you've got a phone home.
Et dans cette scène, c'est effectivement Steven Spielberg face à votre fils, en l'occurrence. C'est un extrait d'épisode 10 qui m'a fait hurler de rire, mais qui en même temps m'a vraiment ému. Parce que E.T., c'était quand même mon premier film au cinéma. Est-ce que ça a été le vôtre aussi ?
Non. Et je regrette de l'avoir montré trop tôt à ma fille, parce que j'avais oublié à quel point c'est traumatisant, parce que c'est quand même des scènes d'agonie infinie qui durent à l'hôpital entre le petit garçon et son ami extraterrestre, et que c'est assez dur à supporter.
Quel était votre premier film quand vous étiez enfant ? Vous vous en souvenez
que
ou pas ?
Que j'ai vu, moi.
Ouais. Oui, parce que vous avez joué dans le premier film, vous aviez 10 ans,
ouais.
Avec Raoul Ruiz.
Est-ce que c'est
à cette époque-là où vous voyez aussi pour la première fois un film sur grand écran ?
Oui, je pense, peut-être La Guerre des Étoiles, 77 ou un truc comme ça. Ouais. La Guerre du Feu aussi, je me rappelle.
Ah bah, La Guerre du Feu, pour un enfant, c'est assez violent quand même aussi.
Oui, ça l'était.
D'accord.
Je vous confirme.
Ah, vous êtes traumatisé, c'est ça ?
Il y a une scène d'amour autour d'un lac qui n'est pas exactement l'image idéale.
Vous avez une maman qui était très cinéphile, qui travaillait dans cet univers du cinéma. Elle a été notamment l'assistante de Wim Wenders, pour citer que ça.
Attachée de presse.
Quels souvenirs vous gardez de vos séances de cinéma d'enfant ?
Des bagarres avec mon frère dans les couloirs, parce qu'on accompagnait notre mère, qui était donc attachée de presse, qui faisait à l'époque des projections. Ça s'appelait des projections. Des gens se retrouvaient ensemble dans une salle de cinéma. Des journalistes intelligents à l'époque. Parce qu'à l'époque, il faut le dire aussi, il y avait une critique du cinéma qui était très importante. Donc les gens, ils achetaient les cahiers du cinéma, et positifs, et tout ça. Ça, c'est encore le cas, je ne dis pas le contraire, mais c'était important que telle personne prenne le relais de ce film-là et le fasse exister, parce que sinon, le cinéma, ça existait. Ça n'aurait pas existé de la même manière. Bref, donc moi et mon frère, pendant que tous ces intellos étaient dans la salle en train de regarder un film de Wim Wenders ou un Coris Maki, on se bagarrait, on faisait les cons, on piquait des petits fours, et éventuellement, on buvait un petit fond de champagne.
C'est vrai ? À quel âge vous avez commencé à boire des fonds de champagne ?
J'ai commencé très tôt, parce que mon grand-père, qui était journaliste sportif à Angers, aimait bien, pour nous calmer l'après-midi, mon frère et moi, nous donner un petit verre de vin rouge.
Mais pour vous, mais ça a marché ou ça vous excite encore plus ?
On a passé des journées à se rouler par terre dans le jardin, ivre mort, à 7-8 ans. C'était magique.
Bon, je ne pensais pas qu'on allait arriver sur ces détails très privés de votre vie, mais lui, le poupeau. Pour faire court, vous avez près de 80 films à votre CV. Je ne les ai pas comptés, pour être totalement honnête. Ça va de Raoul Ruiz à François Ozon, passant par Xavier Dolan notamment. Vous dites souvent avoir été élevé justement dans le culte des auteurs, c'est-à-dire que le metteur en scène devenait un peu l'artiste sacro-saint. Il y a quelque temps, vous êtes devenu le héros d'une série pour TF1, là où on ne vous attendait pas forcément, insoupçonnable, dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine votre choix dans un rôle ? Est-ce que ce sacro-saint cinéaste, réalisateur, s'est un peu effacé au profit d'autre chose ?
Non, il est toujours là. Je viens de tourner des films là, avec des metteurs en scène que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup Anthony Cordier et puis les réalisateurs d'Insoupçonnable. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le champ s'est un peu élargi, s'est un peu ouvert. Les progrès de la technologie, finalement, ont fait aussi qu'on pouvait tourner une série en 4 mois de 12 épisodes, faire 12 heures de film et que ça tienne la route et que ce soit esthétiquement réussi et que ça fasse penser, enfin disons que ça arrive au niveau d'un bon film. Je pense aussi que les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, on est plus sur le modèle anglo-saxon que j'avais côtoyé à une époque parce que j'avais fait des films en Angleterre au début des années 2000. Et là-bas, je m'étais rendu compte qu'un acteur, il faisait un musical, après il allait faire une voix pour une pub, après il allait jouer au théâtre du Shakespeare, il allait jouer dans un film d'action ou alors dans un film télé. Je veux dire, il n'y avait pas ce compartimentage qu'il y avait avant, et donc j'étais moi-même victime, en tout cas j'en étais un des... Voilà, c'était comme ça que je fonctionnais. Je me disais, ouais, les acteurs de théâtre, qui ne sont pas forcément bons au cinéma, et puis des acteurs de cinéma qui ne peuvent pas faire de théâtre, et surtout la télé, c'est encore un autre monde. Voilà, c'était comme ça quand j'étais petit. Aujourd'hui, et notamment grâce à des gens comme Michel Villermoz et d'autres acteurs de la comédie française qui font des carrières au cinéma extraordinaires, on se dit, un acteur, c'est un acteur, son boulot, c'est de jouer. Et c'est pas d'être le snob de service, comme j'ai pu l'être, mais je le regrette pas parce que ça m'a permis aussi de faire des bons films. Et je continue à avoir cette idée un peu idéaliste de l'auteur en tant qu'artiste et tout ça. C'est quand même ça ce que j'aime à la base, c'est le cinéma d'auteur et les grands auteurs. Mais je me suis dit aussi, voilà, t'es acteur avant tout et ça doit pas t'empêcher d'aller faire des expériences quand le rôle est bon.
Et quand vous y prenez plaisir, en l'occurrence, comme dans OVNI, par exemple.
Exactement. Et comme dans Insoupçonnable, où j'avais un personnage aussi, comme dans OVNI, génial à défendre, avec plein de scènes et plein de trucs à jouer, où je me suis amusé tous les jours.
Ça veut dire que, est-ce que vous avez été surpris aussi par le plaisir que vous avez eu à tourner à la fois pour Insoupçonnable et pour OVNI ?
Là où j'ai été surpris, c'est que de continuer à prendre du plaisir sur une aussi longue période.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut s'engager à long terme, en fait, pour une série.
Pour une série, a fortiori, s'il y a une saison 2 et 3.
Bien sûr.
Même, quand même, Insoupçonnable, c'était 6 mois de tournage, OVNI, c'était 4 mois de tournage. normalement, dans un long métrage, c'est 2 mois, et vers la fin, j'en ai marre.
Vous êtes content de rentrer chez vous.
Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'il y a plus d'attente peut-être dans un long métrage, alors que dans une série, en tout cas OVNI, il n'y a pas eu un moment d'attente, il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyé. Tous les jours, j'avais une scène géniale à jouer, des partenaires incroyables, et j'étais motivé jusqu'au dernier jour, et quand ça s'est fini, je me dis « Ah merde, putain, mais j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 », parce que j'ai encore envie de remettre le costume de Didier Mathieu.
Est-ce que ce n'est pas dû au rythme, qui est au départ une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut tourner plus vite quand on est dans la série,
ouais.
Donc une charge de travail qui est peut-être plus importante, mais au fond, vous n'êtes pas inactif sur le plateau de tournage, comme on peut parfois l'être
exactement.
Au cinéma.
Exactement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Alors c'est une contrainte, et des fois les contraintes, c'est grâce à elles qu'on fait les meilleures choses.
Sûr.
Et après dans le cinéma, ça ne se vérifie pas toujours, le côté on attend et c'est chiant et on se déconcentre. Il y a aussi un rythme qui est propre au cinéma, heureusement c'est une autre façon de faire. Dans une série, des fois, on fait 6 scènes par jour. Dans un long métrage, ça arrive d'en faire qu'une seule et de ne pas la terminer et de la refinir le lendemain, par exemple. C'est un autre rythme. Mais c'est vrai que le côté d'être toujours en train de jouer, toujours un peu sur le qui-vive et dans un rythme, moi, j'aime bien aussi. Et surtout que la technologie, aujourd'hui, le permet.
On disait tout à l'heure, vous avez commencé, vous aviez 10 ans, hein, votre première apparition sur un film pour un film de Raoul Ruiz, c'était La Villa des Pirates. Moi, j'ai pensé. La ville des pirates. J'ai dit la ville, le ville. Qu'est-ce que je vous ai dit?
La villa.
La villa. Non, la ville des pirates. C'est parce que j'ai envie de partir en vacances, ça, je pense. Est-ce que, moi, quand je vois votre filmographie, je me dis que c'était une évidence que vous deveniez comédien. Est-ce que ça l'était pour vous?
Bah, j'ai commencé tellement petit que j'ai même pas eu le temps trop de me poser la question. Moi, à la base, je pense que j'étais pas fait pour être comédien. C'est aussi pour ça que j'ai évolué et qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas le même discours qu'à une époque. Et puis aussi parce que le monde a changé tout ça. Mais. Moi, ça m'a mis du temps à me dire, oui, t'es comédien et t'es peut-être pas le plus nul. Et si on t'engage et que t'as travaillé avec des bons metteurs en scène et qu'encore aujourd'hui, des gens continuent à trouver que ça vaut le coup de t'engager, c'est que finalement, c'est ta vie et c'est ton métier. Mais pendant longtemps, je me suis dit, non, mais c'est un rêve, ça va s'arrêter, je suis pas fait pour ça, je suis pas assez cool, je suis pas assez, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, j'avais l'impression que c'était pas ma nature. Et bah, a fortiori, je dois me rendre à l'évidence que finalement, si. Et je me prends même du plaisir.
Vous auriez pu être musicien, par exemple.
Bah, j'essaie de l'être aussi à mes heures perdues.
Combien d'instruments vous jouez?
3, 4.
Ça me fascine,
pas terrible.
Ça. Non, comment ça, 3, 4, pas terrible?
Non.
Vous jouez de la batterie?
Oui, mieux.
Mieux que quoi? Que quand?
De mieux en mieux et mieux que le reste, peut-être. C'est bon. Parce que j'ai commencé par la batterie quand j'étais petit, puis après j'ai arrêté parce que les voisins se plaignaient tout le temps et qu'à Paris, c'est difficile de taper sur des bambous. Du coup, j'avais arrêté et j'ai repris un peu grâce à Biolay. Et là, je viens de rejouer avec mon frère un nouveau groupe qu'on a monté dans lequel je suis batteur, et je me rends compte que, à l'origine, j'étais batteur, tu vois ce que je veux dire.
Votre frère a Yarol Poupeau.
Absolument.
Donc, batterie,
qui
piano.
Qui lui est vraiment musicien,
oui.
Pour le coup.
Piano.
Un peu, 3-4 accords, mais
c'est absolument horrible, les gens qui disent ça. Non, pas n'importe qui, c'est pas vrai, moi je vous assure, si je suis devant un piano, à part les 3 premières notes de l'arnaque, ça va pas plus loin. Guitare, basse,
ouais.
On est d'accord?
Basse aussi, j'aime bien, basse, ouais. Ça va.
Il y en a un d'instrument que vous avez oublié.
Ah.
Ouais, c'est celui-là.
Ce n'est qu'un mot, mais c'est le pire de tes défauts, le seul que je ne supporte pas, le seul qui m'éloigne de toi, celui qui me fait dire tout bas, quelquefois à mi-voix.
Chanson de Benjamin Biolay, donc oui. La vanité que vous reprenez dans cet album Songbook que vous avez enregistré.
Exactement.
Avec Benjamin Biolay.
Et j'ai eu la chance de chanter 50 fois sur scène avec Benjamin pendant une tournée mythique, enfin pour nous en tout cas.
Et ben pour ceux qui n'ont pas pu y aller non plus, puisque moi aussi ça reste un moment mythique, puisque je voulais aller vous voir à l'Olympia et que je n'ai pas pu.
Eh ben on s'est éclaté, j'avoue que
c'était
un moment magique. Et en plus avant toutes ces conneries de confinement et je sais pas quoi, du coup on était dans notre bus, on était tous ensemble, on a traversé la France, 50 dates, c'était un moment de grâce absolue.
Mais vous auriez pu faire la bande originale d'OVNI, qui est d'ailleurs très très réussie.
Benjamin aurait pu la faire, lui. Moi non, moi je suis vraiment musicien du dimanche, ça m'amuse de jouer avec Benjamin, ça m'amuse de jouer avec mon frère, avec des copains, de faire des boeufs, et d'avoir la chance que des bons musiciens s'amusent à jouer avec moi. Mais je veux dire, moi je suis pas capable. Non, là, en fait la musique d'une série, surtout quand c'est 12 épisodes, c'est énormément de travail et très casse-gueule. Parce qu'il faut y penser un peu à l'avance, et c'était le cas d'Anthony Cordier qui a demandé à Thilly Assine, son musicien, de faire la musique dès le début. Parce qu'il a eu le temps de recevoir les images, les rushs et de penser au truc. Parce que, évidemment, sur 6 heures de film, de la musique, il y en a beaucoup. Et là, je trouve qu'il a réussi à mélanger à la fois le côté un peu clin d'œil aux années 70, François de Roubaix, toutes ces références des films français, avec des grands musiciens, parfois un peu oubliés, mais qui avaient fait des grandes musiques. Et en même temps, un côté plus contemporain, plus électro, qui colle aussi à la série de...
Pour vous, c'est plus difficile de jouer avec la voix, de jouer de la musique ou de jouer un
la
rôle
voix.
La voix. Ouais. Vous avez mis du temps à chanter, en fait. Hein.
Je ne chante toujours pas et je déteste ça.
Ça veut dire quoi, vous ne chantez pas? Je vous ai
non,
entendu.
J'aime pas.
Ah non, mais que vous n'aimez pas, mais vous savez chanter.
Non.
Vous ne savez pas chanter?
Non.
Vous chantez faux, donc, si oui. Vous ne savez pas chanter.
Oui.
Et Benjamin Biolay donc est un grand fou et il vous fait enregistrer des...
Oh, c'est un grand fou.
Il vous fait enregistrer des disques ouais. Parce que vous ne savez pas chanter.
Voilà, exactement.
D'accord.
Ouais. La voix, mais pas seulement la voix pour chanter, mais la voix en tant que comédien et tout ça, ça reste le truc le plus important et difficile à maîtriser et pourtant essentiel.
Est-ce que vous le travaillez?
J'y pense. Je ne travaille pas chez moi, genre les graves, les aigus et tout ça, mais j'y pense de plus en plus et j'écoute de plus en plus la voix des autres acteurs et des grands acteurs notamment. Et j'écoute ma voix quand je joue et tout ça. De plus en plus, j'arrive à maîtriser un minimum ce paramètre-là. Parce que c'est par là que tout passe. C'est quand même les ondes qui sortent et ce qu'on dit, comment on le dit. Tout le jeu, c'est d'abord la voix, quoi. Et le corps. C'est pour ça que le corps, je suis de plus en plus à l'aise aussi dans les costumes, dans les attitudes. Là, sur OVNI, par exemple, Didier Mathieu, j'ai essayé de donner beaucoup de posture et de le rendre très tourbillonnant et avec quelque chose d'assez fluide dans le mouvement et à la fois une raideur quand il faut. Puis tout à coup, il s'effondre et les épaules tombent, il se relâche. Enfin, donc voilà. Donc, la gestuelle du corps, enfin l'attitude du corps était très importante, et la voix.
Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous apprenez tous les jours et que vous n'en êtes qu'au début de votre carrière, en
ouais,
fait.
Un petit peu. Au début, peut-être pas, mais au milieu.
Des fois, vous repensez à certains rôles que vous avez joués où vous vous dites « Ah, si je devais le refaire aujourd'hui, je maîtriserais mieux ça. » C'est vrai ?
Tout le temps. Bah, OVNI, pareil, il y a des scènes où je me dis « Oh putain, merde, j'avais pas compris. » Moi, en fait, mon problème, c'est que je suis idiot et que des fois, je lis un scénario, je tourne un film... Et je regarde le résultat et je me dis « Oh putain, merde, j'avais rien compris. En fait, c'était ça. » Et j'avais aucune idée de
non,
ce que j'étais en train de faire.
Non, mais quand vous dites ça, vous exagérez. C'est que vous repensez à un détail, un truc comme ça. Vous avez très bien compris que vous jouiez un scientifique.
Mais non, mais c'est positif.
Oui.
Parce que moi, d'ailleurs, j'essaie pas de tout maîtriser. Mais ça veut dire que des fois, quand tu joues une scène, tu te rends pas compte de ce que ça dégage et ce que ça fait. Et le résultat, c'est ça qui compte. Le montage, la scène d'avant, la scène d'après. Et ça, t'en as pas vraiment conscience quand t'es acteur. Parce que tu fais ton boulot sur le moment. Et ça veut dire que, malgré toi, les trucs se transforment et que le vrai sens du film, bah, il dépasse tout le monde. Et à l'arrivée, c'est réussi, c'est pas réussi, c'est une espèce de petit miracle qui se passe.
Est-ce que l'art est essentiel à nos vies et à votre vie? Forcément, question un peu provocatrice, vous l'imaginez bien.
Ah bon? Pourquoi?
Dans le terme essentiel, qu'on entend beaucoup ces derniers temps.
Connerie, tout ça. C'est évidemment que c'est essentiel. Moi, je passe ma journée à écouter de la musique. Je prends mon ordinateur. Et j'écoute et je regarde des gens qui font de la musique, des chefs d'orchestre. Alors après, c'est peut-être pas tout le monde dans le même cas. Et puis moi, je suis peut-être complètement fou. Mais je veux dire, je fais ça toute ma journée. Si on m'enlevait ça, bon, il se trouve que là, maintenant, on a le droit avec son ordinateur encore de rester chez soi, de regarder des trucs. Et que je fais ça. D'habitude, je vais au concert. Mais je vois pas comment ça pourrait ne pas être essentiel. Je vois même pas ce qu'il y a d'autre, en fait. Je vois pas ce que les gens pourraient faire de différent que de vivre ensemble et de faire du spectacle. Moi, je ne suis pas Guy Debord, hein, tu vois ce que je veux dire, je ne rentre pas là-dedans. Mais je veux dire, c'est quand même comme ça que le monde est fait. On se rencontre, on parle, on s'exprime, les voix résonnent. C'est une forme de la société, la vie, tout ça, comment ça se passe, c'est une forme de spectacle.
On va vous retrouver sur scène bientôt, on va dire. Dans quelques mois, vous remonterez sur scène avec Benjamin Biolay.
J'espère.
Et on vous attend aussi sur la saison 2 de OVNI, évidemment.
J'espère.
Mais j'ai une dernière question, ma vie de poupon,
ouais.
Alors qui est personnelle et qui sort de nulle part, autant qu'une soucoupe volante. J'en suis désolée. D'où vient votre prénom, Melville?
Oh bah écoute, c'est ma mère qui aimait bien Herman Melville, l'auteur américain de Moby Dick et de Bartleby. Et mon père, lui, raconte plutôt que ils hésitaient entre Melchior et Virgile et qu'ils ont coupé la poire en deux. Enfin, ils ont fait une fusion, ils ont appelé ça Melville. Mais alors, je sais pas qui dit la vérité là-dedans, mais...
J'ai fait un truc très bête, vous savez, sur Google, j'ai tapé signification du prénom Melville.
Ça veut dire quelque chose?
Oui. Vous savez pas?
Non.
Vous êtes jamais allé voir?
Non.
Ça signifie celui qui habite sur une mauvaise terre.
Une mauvaise terre?
Ouais. Je me suis dit, pour OVNI, c'est quand même fou d'avoir un acteur dont le prénom signifie celui qui habite sur une mauvaise terre.
Ce qui est étonnant, c'est que mon frère Yarol s'appelle Yarol à cause d'un personnage d'un roman de science-fiction qui habite sur Vénus.
Ah ben, vous voyez, peut-être...
Il y a un rôle le vénusien.
Ah, donc alors...
Peut-être que ma mère a couché avec des extraterrestres.
J'en sais rien, mais il en tout cas, sur Yarol, il n'y a pas de signification, parce que j'ai vérifié aussi.
D'accord, mais en quelle langue ça veut dire quelque chose, Melville?
Aucune idée. Signification des prénoms, celui qui habite sur une mauvaise terre. Je suis désolée de vous annoncer.
C'est pas un super message, là.
Bah si, je trouve que c'est raccord avec OVNI, vous imaginez. C'est peut-être par vous que va arriver...
De toute façon, moi, ça ne me dérange pas d'avoir la tête dans les nuages et de planer. Voilà, ça ne me dérange pas du tout.
Ben, ça ne nous dérange pas non plus que vous restiez dans cet univers-là. On va se quitter en musique avec un extrait de Songbook, donc cet album que vous avez fait avec Benjamin Biolay, de façon très très égoïste. Hein. J'ai choisi une chanson que je trouve absolument merveilleuse, la chanson des vieux cons, qui est signée Benjamin Biolay.
Tant qu'on ne sait pas, qu'on ne sait rien. Tant qu'on est de gentils petits chiens. Tant que la petite santé va bien, on n'est pas la queue d'un être humain. Tant qu'on ne sait pas le coup de frein qui vous brûle à vif un jour de juin. Tant qu'on ne sait pas que tout s'éteint, on ne donne quasi jamais rien.
Merci Melville Poupos pour ce grand entretien.
Bravo,
merci infiniment. Bravo Benjamin Biolay et bravo à toute l'équipe d'OVNI, la nouvelle création originale de Canal+. C'est la série à voir à partir du 11 janvier. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Nous continuerons à explorer l'espace grâce à ces séries qui nous emmènent sur la Lune ou sur Mars. Et puis dans le second épisode, nous changerons d'univers. Anne Landois, créatrice et scénariste notamment d'Engrenage, viendra nous dévoiler les coulisses de sa nouvelle série policière, La Promesse. Série Land est un podcast Europe 1 Studio, produit par une fan de Bébé Yoda, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite et surtout je compte sur vous pour en parler. Je vous donne rendez-vous également sur le groupe Facebook Série Land. Vous pouvez nous attribuer de jolies étoiles sur les plateformes de podcast, ça illuminera notre quotidien. Attention, dans Série Land, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.